Vous êtes bien sur une émission de Radio Saint-Ferréol.
Ici et d'ailleurs, une émission sur les migrations.
Migration d'ailleurs vers ici, d'ici vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
D'ailleurs vers ailleurs.
Un invité.
Son témoignage.
Son parcours.
Son expérience.
Des chroniques.
Géopolitiques.
Juridiques.
Linguistiques. Bonjour. Aujourd'hui, notre invité, c'est Kaba. Bonjour Kaba.
Bonjour.
Qui habite à Cray et qui vient de Guinée.
Bonjour Kaba.
Bonjour.
Comment tu vas?
Je vais bien et vous?
Merci.
Merci.
Très contente de te recevoir dans le studio de Radio Saint-Ferréol. En studio à la technique aujourd'hui, Sylviane. Pour le fil conducteur, Sarah. Toi, Kaba. Et puis moi-même, Claire.
Oui.
Quand on t'a rencontré pour préparer l'émission, tu as bien insisté, on sera vigilant à ça, que oui. Tu avais envie de parler de ta vie d'ici.
Oui.
Pas que d'ici et d'ailleurs, pas que de ton ailleurs.
Oui.
Voilà, donc on sera vigilant à ça tout au long de l'émission.
Oui.
Mais on va commencer par l'ailleurs,
oui.
qui est la Guinée.
Oui.
Quand on a parlé un petit peu avec toi, tu nous as fait une remarque très très juste. Tu as dit, mais nous en Guinée, on étudie l'histoire de la France.
Oui.
Et nous en France, on étudie en tout cas pas à l'école.
Oui.
Ça n'empêche pas de le faire de son côté, mais on n'étudie pas à l'école ni l'histoire de la Guinée, ni aucune des histoires des pays qu'on a pourtant occupés pendant une certaine période.
Oui.
Voilà. Et donc je propose pour qu'on se mette un petit peu à niveau.
Oui.
Que Sarah, tu nous fasses une petite chronique sur l'histoire, la géographie du pays. Et puis comme ça, après, on peut discuter à partir de ça avec toi, Kaba, pour ton parcours, ton ici et ce qui te reste d'ailleurs ici. Et comment tu vis avec tout ça. Ce qu'on peut en découvrir.
Ok, avec plaisir.
Donc moi, je vais faire un bref rappel de l'histoire récente de la Guinée. Je ne vais pas remonter très très loin. Kaba, si tu veux me reprendre, c'est quand tu veux. Si tu veux rajouter quelque chose, tu me fais signe ou tu interviens. Voilà, là, je vais faire un bref rappel.
Oui.
Donc nous allons parler aujourd'hui de la République de Guinée,
oui.
qui est souvent appelée Guinée-Conakry,
oui.
le nom de la capitale, pour la différencier de la Guinée-Bissau.
Oui.
qui est un autre pays situé sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest.
Oui.
Comme pour beaucoup de pays d'Afrique, et pas seulement d'Afrique, les frontières géographiques actuelles ont
oui.
été tracées par des puissances coloniales à la fin du 19e et au 20e siècle.
Oui.
Avant la colonisation, ce territoire a été marqué par le rayonnement et le déclin de royaumes et d'empires successifs.
Oui.
La République de Guinée est divisée en 4 zones naturelles qui ne correspondent pas aux régions administratives. Il y a la Haute-Guinée,
oui.
ou le Mandé au nord-est, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée ou Guinée-Maritime et la Guinée forestière au sud-est.
Yes.
3 principaux groupes ethniques peuplent la Haute, Moyenne et Basse-Guinée. Ce sont les Malinkés, les Peuls et les Soussous. C'est ça? Je ne me
oui.
trompe pas.
Oui.
D'autres ethnies sont présentes dans les régions forestières. La Guinée est majoritairement musulmane, les chrétiens et animistes étant très minoritaires.
Oui.
La France conquiert la Guinée dans la seconde moitié du 19e siècle et va la vider d'une grande partie de sa population par la traite des esclaves. En 1891, la Guinée est proclamée colonie française, mais Samori Touré, relayé par les peuples de la forêt, mène une guerre organisée contre l'occupation française. Samori Touré sera malheureusement vaincu en 1898.
Oui.
Alors je dis malheureusement, c'est vrai que je ne connais pas bien l'histoire de Samori Touré, mais ça aurait évité la colonisation s'il n'avait pas été vaincu.
Oui, ouais, il n'était pas d'accord. Il s'est battu contre la colonie française.
En 1904, la Guinée devient une partie intégrante de l'AOF, ou Afrique occidentale française. À partir de ce moment-là, l'exploitation des ressources est organisée par des sociétés françaises qui ont le monopole et dont le but est de satisfaire les besoins de la France au détriment des cultures vivrières. Aujourd'hui encore, la Guinée est très pauvre malgré l'énorme richesse de son sous-sol. Il y a beaucoup d'eau, il y a des forêts, il y a le diamant et il y a surtout le bauxite, dont la Guinée est le premier pays exportateur. Et le bauxite sert à fabriquer l'aluminium.
Oui.
Il y a aussi de l'or, du fer, du nickel. Après la Seconde Guerre mondiale, Conakry devient un port important où beaucoup de Guinéens travaillent. Ils vont créer leurs propres syndicats et de là vont émerger des mouvements contestataires. La nouvelle constitution française de 1946, un peu plus libérale, va permettre la création de partis politiques. Ahmed Sékou Touré, qui était à la tête du puissant syndicat UGTAN, va devenir la figure la plus importante du mouvement anticolonial. De Gaulle organise en 1958 un référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution française, auquel sont appelés à voter les Français et aussi les populations des colonies. Celle-ci inclut un processus soi-disant de décolonisation des pays d'Afrique, mais en réalité, ce sont des mesures qui intégreraient les colonies dans une nouvelle communauté française. Elles auraient certes une certaine autonomie concernant les affaires intérieures, mais pas plus. Par contre, si l'un des pays colonisés vote contre, il accédera à l'indépendance. La Guinée est le seul pays de l'Afrique francophone à voter pour l'indépendance, à laquelle elle accède le 2 octobre 1958.
Oui.
Sékou Touré, très populaire dans son pays et dans toute l'Afrique, devient le président. Il prône la décolonisation de toutes les structures du pays, la mise en place d'une société socialiste et le panafricanisme. En représailles, De Gaulle décide de se retirer brutalement. En 2 jours, il supprime toutes les aides et retire tout son personnel technique, ce qui plonge le pays dans le chaos et va amener la Guinée à la faillite. Sékou Touré meurt le 26 mars 1984. Le gouvernement intérimaire est renversé par un coup d'État qui met Lansana Conté au pouvoir. Lansana Conté est nationaliste et libéral. Il va largement privatiser les entreprises publiques. Et il reste au pouvoir jusqu'à sa mort le 22 décembre 2008. Il sera remplacé par une junte militaire avec à sa tête Moussa Dadis Camara.
C'est un forestier. Il vient de la forêt.
Ah, c'est un forestier.
Oui, c'est un forestier.
Ok. Et il s'est autoproclamé président de la République.
Oui.
En septembre 2009, des milliers de personnes se sont rassemblées pour demander sa démission.
Oui.
Et cette manifestation a été très violemment réprimée.
Oui.
Ouais, t'en as entendu parler.
Ça s'est passé le 28 septembre.
C'est une date qui reste en Guinée importante.
Oui, souvent c'est la date qu'on garde beaucoup de souvenirs. Pour parler ça, pour faire rappeler des gens.
Et il y a eu ce jour-là, par la répression, 150 personnes qui ont été tuées.
Qui ont été tuées des balles réelles.
Des balles réelles. 109 femmes ont été violées.
Oui.
Et 1500 blessées.
Oui.
Moussa Dadis Camara, lui, a été blessé à la tête en décembre 2009.
Oui.
Et du coup, il a quitté ses fonctions.
Oui.
Et il a également quitté la Guinée.
Oui.
Où il ne revient qu'en 2021.
Oui.
Et il sera alors inculpé pour les massacres de septembre 2009.
Oui. Avec Dadis Camara, et pourquoi il avait touché sur le bal, il y avait une conflition avec son garde-corps qui s'appelle Toumba Diakité.
Ok.
Donc là, ça se passe mal.
Et c'est quand même lui qui a ordonné les massacres, non?
Dans leur jugement, c'est Moussa Dadis qui est le président. Donc s'il y a eu des ordres de militaires qui vont tirer des balles, c'est qu'il a donné des ordres.
C'est que c'est lui le responsable.
Donc c'est lui le responsable. Et le 28 septembre, il était là-bas. Son garde-corps qu'il a fait tirer sur sa tête, il a frotté.
Ah, sa blessure à la tête.
Oui, sa blessure à la tête.
C'est son garde du corps qui l'a blessé.
Oui, il voulait la tuer. Voulait le tuer. Donc malheureusement, il a eu la chance de s'en sortir.
Il n'est pas mort.
Ouais.
Il s'est exilé du coup. En décembre 2009. 2009, oui. Et donc du coup, la transition a été assurée par le général Sékouba Konaté.
Oui.
Qui organise les élections présidentielles en 2010,
oui.
Remportées par Alpha Condé.
Alpha Condé.
Qui est un opposant historique des deux premiers présidents de la Guinée et à l'origine du mouvement national démocratique. Il sera réélu en 2015 et en 2020, alors âgé de 82 ans, à la suite d'une révision constitutionnelle très controversée qui lui a permis de briguer un troisième mandat.
Oui.
Parce que normalement, c'est que deux mandats en Guinée.
Oui, on peut dire dans la loi deux mandats, mais ça peut dépasser même 10 mandats.
Même 10 mandats, et même à 82 ans.
Voilà, ça doit dépendre, c'est quel... qui sont au pouvoir, s'il en avait beaucoup de gens côté communauté ethnique qui va le soutenir, ben non, il ne va pas bouger, il va y rester. Donc, il va y rester.
Et Alpha Condé, tu es de quelle origine ethnique?
Il est malinké.
Malinké.
Oui.
Et Moussa Dadis Camara?
Il est forestier.
Forestier, oui, tu avais dit forestier. Oui. C'est une... et je crois, dans la forêt, ce qu'on voyait tout à l'heure, en fait, il y a différentes ethnies.
Oui, dans la forêt, lui, il parle de Guerché. Et dans la forêt, la plus grande ville, c'est Nzérékouré, qui fait partie des troisièmes grandes villes de la Guinée. Donc, c'est là que Moussa Dadis Camara vient.
Qu'il vient.
Oui.
Donc, après, pour revenir juste un petit peu à ce qui s'est passé les dernières années. Le 5 septembre 2021, un coup d'État mené par une unité d'élite de l'armée guinéenne, le groupement des forces spéciales, capture Alpha Condé et met au pouvoir le colonel Mamadi Doumbouya.
Exactement.
Et aujourd'hui, nous sommes un an et demi après la chute d'Alpha Condé et les tensions sont toujours très fortes entre la junte menée par Mamadi Doumbouya et la coalition des forces vives de Guinée, qui regroupe les partis d'opposition et les mouvements de la société civile. Et ces forces vives de Guinée demandent la levée de l'interdiction de manifester, qui a été instaurée par la junte depuis 2022, ainsi que l'arrêt des poursuites judiciaires contre les opposants.
Oui.
Tu en penses quoi des forces vives de Guinée? Tu connais un petit peu ou j'ai bien résumé ou...
Du coup, en fait, le coup d'État qui se passe à Alpha Condé, c'est Mamadi Doumbouya qui l'a renversé. Mais Mamadi Doumbouya, c'est Alpha Condé qui l'a nommé, je ne sais pas, colonel ou commandant. Donc, il se connaît bien. Donc, il fait partie des mêmes communautés. Donc, on peut dire, c'est un coup d'État, ceux qui ont la vie, on dit. Mais pour moi, OK, pas que vrai coup d'État.
D'accord.
Parce que si les deux communautés qui font renverser l'autre, il n'y a pas de problème. Mamadi Doumbouya, c'est malinké. Et Alpha Condé aussi, c'est malinké. C'est de même communauté.
Oui, c'est un changement de chef, donc, mais pas de bord politique.
Pour moi et pour mon philo, moi, je me suis dit ça quand même. Est-ce que ce n'est pas un coup d'État arrangement? Mais non, je me suis dit, bref, OK.
Ah, tu penses même que c'est un arrangement entre eux?
Les gens, ils l'ont bien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si c'était d'autres communautés qui l'ont fait inverser, Alpha Condé, ça ne doit pas se passer comme ça.
La suite n'aurait pas été la même.
Voilà, ça ne doit pas être la même la suite. Si c'était un soussou, ou bien si c'était un pil, des communautés pil ou des communautés forestières, qui fait renverser comme ça, ça va pas se passer. Ça va se passer mal. Parce que d'abord, le communauté Mandinga, il ne voulait pas que d'autres communautés vont lui commander dans leur territoire.
Parce que leur territoire est Mandinga.
Mais est Mandinga. Donc n'importe quoi, ils ne voulaient pas que d'autres ethnies doivent être hauteurs pour nous commander. On dit, nous, on n'a pas bougé sur notre territoire. Donc, on est là. Si vous voulez, c'est nous qui va commander le pays. Si ce n'est pas le cas, tu fais ce que tu veux. Mais c'est les hommes politiques, le vrai, c'est les Manding, les Malinké de Guinée. Il y a d'autres qui fassent, mais c'est eux qui gèrent tout. C'est ce que j'ai appris.
Parce que les autres ethnies sont arrivées plus tard.
Oh, du coup, ils n'ont pas arrivé plus tard. On connaît notre place, mais parce qu'on peut dire tout ça, ça commence à côté de colonies.
Bien sûr.
Ça a commencé depuis la colonisation. C'est la communauté malienque qui ne voulait pas rien du tout. Il dit, il nous laisse comme on était.
C'est la communauté malienque qui a... Ben, on parlait tout à l'heure de Samori Touré. C'est, il était malienque, lui aussi.
Samori Touré, malienque.
Et toute cette histoire de la Guinée, tu nous as dit quand on a préparé l'émission que tu étais dans une école française.
Oui.
Et tu l'as bien appris, l'histoire de la Guinée. Oui, l'histoire de la France et l'histoire de la Guinée.
Ah, YNP, c'est ce qu'un prof m'avait dit.
Et effectivement, tu étais étonné que dans les écoles françaises ici,
oui.
Ben on sache rien quoi sur la Guinée. C'est vrai que c'est pas très logique.
Bah, c'est ça que je comprends pas pourquoi ils n'apprennent pas les élèves à l'école d'histoire France. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique? Qu'est-ce que les Africains ils ont fait pour la France? Et ça, on ne l'entend pas du tout.
Alors qu'on est concerné, oui.
Ben...
C'est même, non seulement on ne l'entend pas, mais c'est même encore aujourd'hui un sujet tabou. Hein. Mmh. On n'en parle toujours pas. C'est la colonisation est...
Sauf sur Radio Saint-Ferréol, oui. Dans l'émission d'ici et d'ailleurs.
Oui, là, effectivement, on en parle. Et... Tu nous disais aussi que les jeunes, vous parliez beaucoup entre vous à la sortie des cours. Vous parliez de l'histoire, vous parliez politique ou c'était pour vous retrouver juste pour parler de choses dont des adolescents peuvent parler
Ben oui, entre nous les jeunes, on parle des histoires et même politique. Mais ça dépend de quel jeune qui est à l'école française. Et entre eux, il peut parler de ce qu'il a appris, histoire, géographie, côté colonialisme, esclavage. Entre eux, il peut parler ça. Donc les amis aussi qui sont à l'école coranique, eux aussi, ils peuvent parler de la religion, des histoires et religions. Et pour nous, à l'école française, souvent, on ne s'entend pas beaucoup.
Avec ceux qui viennent qui sont à l'école coranique.
Oui, parce qu'on n'a pas de même éducation du tout.
Oui.
Mais on a des éducations, traditions, culture. Mais côté études, comme ceux qui sont à l'école coranique, franco-arabe, ils sont éduqués de culture arabe. Ils vont dire ce qu'ils font comme ça, dans la religion, nanani, nanana. Nous aussi, à l'école française, ce qu'ils nous disent, c'est ça qu'on a appliqué. Donc avec eux, parfois, c'est un peu compliqué de communiquer un peu la religion ou d'autres choses. Voilà, bref.
C'est-à-dire que si vous allez à l'école française, la religion n'est pas un sujet que vous abordez entre vous ou à l'école? Par contre, vous abordez le sujet de la religion en dehors de l'école, c'est-à-dire avec la famille ou de manière privée?
Et bah, y en a certaines écoles, il y en a un endroit et pour l'heure, vous devez aller prier.
D'accord.
Mais si l'heure de cours, si c'est de même l'heure, non, tu ne peux pas sortir, il faut que tu attends ou tu pries avant.
D'accord.
Et tu rentres. Okay. Mais quand même, si tu veux, tu dis, bah, je vais aller le faire. Le prof, il ne va pas te dire non.
Mm-hmm. Tu parlais de la culture traditionnelle. Ça, par contre, que les enfants, enfin, ou les jeunes aillent à l'école coranique ou à l'école française, vous vous retrouviez sur les traditions. C'était les mêmes traditions et les mêmes coutumes.
Oui. Mais avec l'éducation française, ça ne fait pas partie de notre coutume et notre tradition. Il y en a certaines, bah oui, mais pas exactement. Pas les mêmes choses.
Parfois, c'est en contradiction.
Oui, parfois c'est contradiction.
Et tu viens de quelle région de la Guinée?
Moi, je viens de la Haute-Guinée.
De la Haute-Guinée.
De la Haute-Guinée, le ville qui s'appelle Cancan. C'est la deuxième capitale de la Guinée.
Après Conakry, c'est
ça? Après Conakry, Cancan.
et du coup de l'ethnie malinké.
Oui, je suis de l'ethnie malinké. Ouais.
J'ai une petite question, je peux me permettre ?
Oui.
Quand toi, tu as parlé d'un ou l'autre président, ou quand vous vous présentez, est-ce que c'est important de dire d'où vous venez ? Parce que quand tu as dit « Ah oui, lui, c'est un forestier » ou « Lui, il est malinké », pour toi, quand tu vois une personne que tu rencontres, c'est important de définir sa communauté ?
Oui, bah, bien sûr.
Même quand toi, tu te présentes, par exemple, aussi ?
Si moi, je me présente des gens et je m'appelle Sekouba Kaba, je viens de la Guinée-Conakry et ma ville natale, c'est Kankan. Je suis ethnie malinké. Je dois dire ce que je suis. Et maintenant, je dois savoir qui est toi, qui es-tu, tu es quelle ethnie. Okay. Je veux comprendre. À ça, s'il ne me comprenait pas à malinké, je peux lui dire bonjour, ça va et tu t'appelles comment?
Okay.
Donc, il peut me répondre s'il était à l'école française, s'il sait parler français. Mais souvent, entre nous, on voulait savoir tu es qui? Tu fais partie de quelle communauté ethnie? C'est pas mal ça.
Et si l'autre te répond que c'est pas la même communauté que toi, c'est comment tu l'accueilles?
Ben, je dois l'accueillir, n'importe quoi. Mm-hmm. N'importe quoi, ça doit dépendre de quelle personne. Mais de toute façon, on ne laisse pas dans la merde.
Ok.
La solidarité s'applique, quelles que soient les communautés. Il y a une solidarité entre...
Oui, il y a une solidarité dans toutes les communautés guinéennes. Et, sauf que problème de politique, ça c'est autre chose. Mais les restes avec les chrétiens, les protestants, les musulmans, on partage tout.
Même les différences religieuses, il y a une solidarité.
Oui, même différences religieuses. On va inviter, c'est à la maison, ils vont nous inviter, on va manger ensemble, on va jouer, faire la musique. Et chacun fait ce qu'il veut, on n'a pas de problème sur ça.
Ok, donc le problème se pose effectivement au moment où, avec la colonisation, il y a eu des questions de pouvoir, de territoire, de domination. Voilà, et là, dans ces cas-là,
aujourd'hui, c'est le problème, c'est ça. Côté de politique, pour être comme les autres communautés, il dit depuis 1958, les communautés mandingues qui gèrent, qui sont au pouvoir, qu'ils ne font rien au pays, le pays est en retard tout le temps. Mais de toute façon, nous, on ne va pas la lâcher comme ça. C'est la Guinée appartient pour nous, c'est pour la communauté malingue. Même les autres, ils ne voulaient pas l'entendre, mais on connaît tous les histoires, comment ça se passe.
Les conflits sont à ce niveau-là.
Voilà, les conflits sont à ce niveau-là.
D'accord, merci. C'était une parenthèse. Mais...
Une parenthèse très intéressante. Et je vous propose maintenant d'écouter une musique que tu nous as conseillée, Kaba.
Oui.
De Bambeya.
De Bambeya Zax, national et international.
Regard sur le passé. Donc, on va en passer une... En fait, c'est un morceau qui est très, très long, qui est magnifique, mais qui est très, très long.
Oui.
Donc, on a fait le choix d'en passer une partie maintenant. Et on passera une autre partie à la fin de l'émission.
Oui.
Et de toute manière, nos auditeurs pourront retrouver sur le site de la radio les liens pour aller retrouver ce morceau en entier qui est très très beau.
Oui.
Quand il y a mort, il va t'aider en fantaisie. L'air que vous entendez est une composition en l'honneur de l'empereur du Wassoulou, l'Alma Missa Mori Touré, dont la lutte anticolonialiste a donné naissance aux plus belles chansons de geste d'Afrique.
Ayame. Kandara fa moriba fa manye kumala.
Écoutez, écoutez fils d'Afrique, écoutez femme d'Afrique, écoutez aussi jeunes d'Afrique, espoir de demain. Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Il est des hommes qui, bien que physiquement absents, continuent et continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Sans de cela, l'Alma Missa Mori Touré, empereur du Wassoulou, le roi de l'abbé Nilusba Alpha Yaya Diallo et Morifindian Diabaté, symbole de l'amitié, dont les restes glorieux viennent de rejoindre la terre natale qu'ils ont aimée et défendue leur vie durant. Le colonialisme, pour justifier sa domination, les a dépeints sous les traits de rois sanguinaires et sauvages. Mais, traversant la nuit des temps, leur histoire nous est parvenue dans toute sa gloire.
Vous êtes sur Radio Saint-Féréol 94.2 dans un épisode de l'émission « Ici et d'ailleurs ». Et vous venez d'entendre une partie d'un morceau de Bambeya Jazz National, Regard sur le passé. Kaba, ce morceau date de quelle année?
Le morceau, les dates exactes entre les années 60 et 80. Je ne sais pas si c'est les 60 ou 80, mais c'est entre les deux.
D'accord. Est-ce que c'est un morceau qui est très écouté en Guinée?
Oui, ça, bien sûr. Dans les années 80, ça a écouté partout.
Par tout le monde? C'est-à-dire les jeunes, les personnes plus âgées?
Les jeunes qui sont prêts pour se battre dans le pays. Et même les Maliens aussi. Le Mali, c'est pareil. Toutes les communautés qui mandinga qui comprennent les paroles, et donc les musiques, là, et tout le monde là qui fait.
D'accord, c'est une très très belle musique et qui dit beaucoup de choses.
Oui.
Donc, comme Claire l'avait dit au début, tu avais plutôt envie qu'on parle aussi de ta vie ici. Donc, on va peut-être revenir à Cré. Ça fait combien de temps que tu es là?
Depuis bientôt 5 ans, je vis à Cré, oui.
5 ans que tu es à Cré.
Oui,
et en France, tu as vécu ailleurs ou tu es venu directement ici?
J'ai vécu ailleurs un peu en Italie, oui.
En Italie.
En Italie.
Et en France, que à Cré?
Oui, en France, oui. Non, mais je fais d'abord 8 mois entre Gap et Vienne.
D'accord.
Vienne de Voli, qui sont dans Hautes-Alpes.
Oui.
Oui.
Et est-ce que tu as bougé un petit peu en France? Enfin, tu as visité d'autres endroits ou ton image de la France, c'est Cré?
Pour l'instant, je me suis dit, c'est Cré. Sinon, j'ai bougé un peu pour monter vers Marseille, Paris, au nord aussi, Amiens. Oui, et je me suis dit, je vais retourner à Cré aussi.
On est bien à Cré.
Voilà, on est bien ici.
Tu es arrivé en France à quel âge?
J'ai arrivé en France presque à 17 ans.
Donc mineur?
Mineur, oui.
Ok. Et comment ça s'est passé ton arrivée?
On est arrivé, on m'a demandé, tu viens de quel pays, tu as quel âge, tu as registré de naissance. Je n'avais rien au papier sur moi. Et finalement, on m'a exclu. Je me trouve dehors.
De la minorité.
De la minorité.
D'accord.
Oui.
Tu as fait quoi quand tu es arrivé comme mineur? On t'a proposé l'école quand même?
Non, on ne m'a pas proposé l'école du tout. C'est l'association qui m'a occupé de moi à Gap et à Vienne aussi pendant 7-8 mois là. Et le 9e mois, j'ai trouvé des gens qui sont à Cré ici, qui sont prêts à m'accueillir. Bah, finalement, je suis venu à Cré.
Tu es revenu ici.
Oui, je suis revenu. Et c'est eux qui m'ont proposé de l'école.
Ah, c'est à Cré qui t'ont proposé. Oui. Avant, on ne t'avait pas proposé. D'accord.
Oui, oui.
Et du coup, tu as fait quoi comme...
Bah, je fais mécanique. Mécanique pour le jardin.
Et ça te plaisait?
Ouais, ça me plaisait. Sinon, je ne le fallais pas.
Quand on a préparé l'émission, j'ai cru comprendre que la musique et la danse,
oui,
c'était des choses très importantes dans la tradition malinké.
Oui.
Et que pour toi, cette tradition était aussi quelque chose d'important. Est-ce que tu joues de la musique et quel genre de musique?
Ben, je joue la musique tradition, comme des percussions. Et voilà, je peux chanter aussi, même si je ne veux pas chanter, mais je peux danser. De toute façon, on a des trucs à faire dans la musique.
Il y a beaucoup de choses dans la musique à faire.
Tu dis « on », c'est-à-dire que tu as aussi de nombreux amis avec qui tu peux partager cette tradition ou tu la transmets à d'autres qui ne la connaissent pas?
Bah, je connais d'autres qui, oui, on les partage. Et d'autres aussi qui sont des Français, qui l'ont appris ailleurs, en Afrique, Burkina, Mali, qu'on partage aussi.
Tu nous as dit aussi que le rythme, oui, dans la vie en Guinée était quelque chose de très important dans la musique et dans la vie quotidienne.
Oui.
Et à propos de ça, tu nous as indiqué une vidéo,
oui,
j'ai pu regarder,
oui,
et on mettra la référence aussi sur le site que je vous conseille, qui est très intéressante.
Oui.
Une vidéo de folie.
Oui, une vidéo de folie. Tous les choses, c'est des rythmes.
Et je vous propose en fait qu'on écoute maintenant des parties de cette vidéo.
Oui.
Et puis on va essayer de retrouver ou on va vous indiquer. Mais peut-être que les auditeurs peuvent, avant qu'on donne la réponse, réfléchir et voir à quelle partie de la vie,
oui,
correspond chaque rythme. Donc on va lancer le premier.
Oui.
C'est du rythme. Toutes les choses, c'est du rythme.
Alors, ce premier rythme correspond à quoi dans la vie quotidienne?
Ok, bah, c'est le premier rythme-là. Et au début, il avait dit... Toutes les choses, c'est des rythmes. Le pas, quand on marche, le pas pour voir, c'est des rythmes. Si les deux pas se croisent, pas, pas, l'autre aussi, il fait ta, ta, pa, pa, ta, ta. Quelqu'un d'autre, là, il est en train de faire son petit travail, le bruit qu'il fait, s'il écoute ce truc-là,
il
tape, donc il peut l'accompagner. Donc ça doit donner des rythmes. C'est ça, dans la vidéo, on voit le fil en train de plier trois personnes. L'autre, il fait balayer. Tu vois? Donc, ils sont capturés pour dire la musique, c'est à la base, c'est le rythme. Le travail, s'il y a des bruits, le pas, le marche, même les paroles, c'est des rythmes.
Et là, effectivement, dans celui-là, on voit des femmes qui pilotent et
oui,
c'est assez intéressant de voir qu'une personne à côté, effectivement, reprend le rythme qui est donné par le pilon, en fait.
Oui, qui donne le pilon.
On en écoute un deuxième ?
Oui.
Qu'est-ce qu'elles disent, les femmes? Tu comprends? C'est dans ta langue?
Oui, c'est dans ma langue, je comprends. Et là, les jeunes femmes, là, ils jouent, ils s'amusent. Ils sont un truc, instrument et, qui fait famille calebasse, mais il est long. Oui. Ça, que c'est les jeunes filles qui jouent ça seulement.
Et on entend en fond,
oui,
toujours on, les,
des, oui,
les femmes qui...
Qui pilent aussi, qui donc pilonnent. Voilà, qui pilent et avec les calebasses qui donnent des sons, là, boum, 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 boum. Donc, oui, il a fait la musique naturelle. Voilà. Donc, bah, les femmes, là, ils disent, ils parlent des caméramans qui l'ont fait leur vidéo, là. Qui, voilà, qui le félicitaient, son travail. Là, ils le félicitaient, son bien faire, son boulot.
Et les paroles peuvent changer?
Bah,
elles auraient pu mettre d'autres paroles?
Je pense que c'est ça qu'elles disent.
Elles inventent, en fait, oui, c'est une chance. Non, ouais,
en direct, ils font comme ça, ils s'amusent
c'est de l'impro.
En s'entendant, quoi. Mmh. Voilà, ils s'amusent en s'entendant. S'ils voulaient dire quelques trucs pour les remercier, ils prennent un instrument, ils jouent avec, juste ça.
Un troisième.
Tout le travail, tout le bruit,
c'est
des rythmes.
Et alors, je ne sais pas si vous avez pu reconnaître en fait ce qu'on a entendu.
Oui.
C'est quoi?
J'ai entendu des coupes de bois.
Oui. Et on a bien entendu
bien,
l'arbre tomber.
L'arbre tombe aussi.
Et les petits oiseaux qui s'envolent.
Ouais.
Et les petits oiseaux qui s'envolent.
Oui.
Et on, dans la vidéo, on peut voir que c'est la première partie du travail pour construire un djembé.
Oui.
Parce qu'il va tailler le bois après.
Oui, il va couper, il va tailler, il va crever.
Et du coup, ça nous amène au rythme 4.
Oui.
Qui est aussi dans la fabrication du djembé.
Djembé. Kansaba. Ping. Pang. Boum.
Ça rentre dans la fabrication du djembé, en fait, parce que c'est la partie qui va entourer la peau, c'est ça? Qui
c'est
est fait
ça, oui,
au fer.
Oui, pour le fer et d'autres instruments aussi qu'on appelle kinkeni. Et pour fabriquer cet instrument-là, le partie métal de djembé, c'est là qu'on attend du son avec des rythmes.
Avec du rythme sur le travail du fer.
Voilà, du travail. Ce sont les forgerons aussi. Ils travaillent ensemble. C'est, à la base, c'est les gens forgerons.
Eh bien, nous allons arriver maintenant au rythme 5.
Les pas de marche, c'est les rythmes. Parole, c'est des rythmes.
Kinima senekelei bo seneti. Eke. Kinima senekelei bo seneti. Eke.
Kana.
Eke.
Kana. Kuduba. Kana.
Eke.
Kana. Kuduba. Kana.
Eke.
Kana. Kuduba. Kana.
Eke. Kinima senekelei bo seneti.
Ne. 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 Kana. Kuduba. Ne.
Eke.
Kana. Kuduba.
Ne. Ne.
Eke.
Kana.
Kuduba.
Ne.
Eke.
Eke
seneti gumba fina.
Eke
seneti gumba fina.
Eke
seneti gumba
fina.
Eke
seneti
gumba
fina.
Eke
seneti
gumba
fina. c'était le rythme des paroles.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'il disait dans ses paroles?
Bah, il disait dans ses paroles comme pour côté du riz. Le principal, c'est des céréales pour entre les paysans et les commerçants. Comme il dit, les céréales, que les céréales, ça ne nous suffit pas, nous, les paysans. Donc, le commerçant, qu'est-ce que vous devez faire?
C'est, en fait, les paroles des chansons sont
oui.
très liées à la vie quotidienne.
Voilà, oui, là, oui. C'est oui
ça dans cette chanson-là.
Oui, dans cette chanson-là. C'est des chansons des paysans. Les paysans griots, qui sont des paysans, ils sont des musiciens et qui sentent ça.
Alors là, c'est le prochain rythme. On va entendre un peu aussi d'autres bruits de fond. Je vous laisse essayer de trouver de quoi il s'agit.
Laquelle? Ah oui.
Alors, qu'est-ce qu'on a entendu dans le fond?
Là, ça, je me rappelle, je fais aussi, quand j'étais tout petit, c'est pas un vrai instrument, c'est que des boîtes conservées, des bidons vides, avec des bois.
Et des enfants qui jouent.
Voilà, il y a des enfants qui jouent à la fleur, oui.
Et un bruit qu'on entend aussi dans le fond, c'est l'eau qui coule?
Oui, bah, ils sont dans le fleuve.
Ouais. Ouais. Et les femmes lavent
le linge.
Eh ben, on arrive au fin des rythmes. Il nous en reste un.
Oui.
Et je dois dire que je n'ai pas en fait vraiment compris dans la vidéo ce qu'elle est avec ce rythme. Il y avait beaucoup de danse.
Oui.
Est-ce que c'était une fête?
Oui,
ça c'est... Guerriers,
non, c'est... ça c'est pas une fête guerrière, ça c'est une fête pour tous les villageois. Tous les villageois, les habitants du village, c'est une fête des lacs qui fait une fois par année. Des lacs là, c'est comme des pêches, donc ils vont faire des pêches de poissons. Les lacs là, c'est réservé pour tout le monde, le fait qu'une fois par année. Donc le lac là est... Tu ne peux pas venir pêcher sans autorisation. Tu n'as même pas le droit. Il faut qu'il te l'attende ce jour.
Pour donc pêcher, il faut attendre ce jour.
Oui,
okay.
Pour pêcher, c'est tout le monde qui sort ensemble. Après, ils vont entourer des lacs. Il y a des chefs de village qui vont donner autorisation. Bah, allez, hop!
Et tout donc, le monde y va.
Voilà, tout le monde va chercher. Après, maintenant, les hommes, les vrais danseurs, qu'on le voit en vidéo, ils dansent gauche-droite, ils sautent. Et
mais il y a même des enfants qui dansent très, très bien.
Les enfants, ils apprennent comme ça. Mais aussi, il y a des enfants aussi comme des futurs. Et ils apprendront à la maison et ils se gardent pour d'autres générations. Mais quand même, tout le monde sait danser un peu. Mais il y en a spécial, chaque événement, qui est des professionnels.
C'est des professionnels de la danse.
Oui, oui. Qui danse.
Eh ben, on va écouter ce septième rythme.
Nous, on ne va pas égorger notre culture, on va la garder. Ça va rester. Je suis sûr que ça va rester. Thank you.
Vous êtes sur Radio Saint-Ferréol, 94.2, en compagnie de Kaba, qui vient de Guinée et qui vit à Cré. Nous avons parlé des rythmes de toutes choses et Folie a cité la parole.
Ouais.
Alors, c'est peut-être le moment de... que Claire nous fasse la chronique linguistique pour parler des langues qu'il y a en Guinée.
Oui, alors dans cette chronique linguistique, puisqu'on essaye d'en faire une à chaque émission, là je serai assez rapide sur les données ethno-linguistiques parce qu'on a déjà un petit peu abordé le sujet au début de l'émission, mais je donnerai quand même quelques chiffres.
Oui.
Et puis ensuite, je reviendrai à un épisode historique un peu plus marquant pour la Guinée.
Oui.
Et puis quelques questions, si tu veux bien, Kaba, à la fin.
Vas-y.
Donc, dans la... d'abord, je voudrais repréciser que quand on parle de Guinée, elle est, c'est la Guinée des frontières et qu'elle est entourée de deux autres Guinées.
Oui.
Donc, la Guinée-Conakry dont on parle est francophone.
Oui.
La Guinée-Bissau.
Et des Portugais.
Voilà.
Oui.
Et la Guinée équatoriale.
C'est espagnol.
Voilà, donc ça pose des marques assez claires et officielles. Mmh. On va voir que, en réalité, avec la répartition des différentes ethnies, ça ne correspond pas du tout à ces frontières et qu'il faut quand même garder cela en tête, hein, cette dimension transversale des langues.
Oui.
Par exemple, sur les quelques 12 millions de Guinéens, donc la Guinée... Conakry, ils sont répartis en près d'une quarantaine d'ethnies qui parlent chacune leur langue.
Ouais.
En Guinée, étant donné que le dernier recensement officiel basé sur les groupes ethniques remonte à 1955, donc avant l'indépendance, on ne peut pas vraiment de statistiques gouvernementales.
Ouais.
Par contre, si on se base sur des estimations... on pourrait affirmer que les peuples les plus importants, ce sont alors les Peuls, le Poulard, à 40...
C'est qu'ils disent.
Un peu plus.
Ouais,
ah oui,
c'est
ah,
qu'ils disent.
Alors, toutes les informations viennent du site du CFAM à consulter, qui est quand même un site canadien. Donc, effectivement, c'est un point de vue quand même, hein, mais... Voilà, bon, on va partir sur ces chiffres-là qui sont peut-être contestables. Alors, les Peuls, à peu près 40%, les Malinkés, à peu près 28%, les Soussous, à 11%, et rien que ces trois langues, déjà, ça fait plus de 80% de la population. À noter aussi que chacune de ces langues, elles sont transversales d'un pays à l'autre. Comme j'ai dit, par exemple, si je prends les Malinkés, ils sont présents au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, également en Guinée-Bissau à côté. Enfin, voilà, donc c'est également au Libéria. Et donc, on voit quand même que c'est une population de 4 millions d'habitants qui ne se réduit pas à la Guinée. Qui vous donne aussi une ouverture par rapport aux autres peuples des pays voisins assez grande. Quant au français et à l'arabe, alors, le français est la langue officielle du pays.
Du pays, oui.
Mais quand même, ce qui est assez caractéristique, seulement 15 à 25% des Guinéens la pratiquent. En fait, dans les campagnes éloignées, cette langue demeure à peu près inconnue.
Oui.
Et parfois, le français sert de langue véhiculaire entre les ethnies, effectivement, ceux qui sont allés, comme tu l'as signalé, à l'école française, mais également le Poulard, le Malinké et le Soussou. Hein, pas de... Ça, c'est important. Et pour ce qui est de la langue arabe, elle est surtout employée par les adeptes du Coran et ceux qui sont allés à l'école coranique. Sinon, c'est une langue qu'on peut rencontrer par les textes. Mais qui n'est pas forcément parlé entre les personnes.
Hein. Non.
Enfin, on compte à peu près 5% à peu près des...
Les vrais professionnels.
Voilà. Ensuite, j'aimerais bien revenir sur une période historique qui a fait quand même une de ses spécificités, parce que ça interroge dans beaucoup d'autres... En tout cas, on a reçu des invités de d'autres pays de France-Afrique et le français était majoritairement parlé, là 15 à 25%. Et donc, je me suis interrogée sur ça et je voulais revenir justement sur la période historique de Sékou Touré avec sa révolution culturelle parce que pour moi, il y aurait peut-être une clé là-dedans. Alors, c'était après l'indépendance de 1958. Ahmed Sékou Touré était le premier président de la République. Ouais. Il se faisait appeler chef suprême, responsable suprême, pardon.
Oui, responsable suprême, oui.
Voilà, je cite ces mots. Hein. Et je le cite encore, il voulait la décolonisation intégrale de toutes les structures du pays afin d'instaurer une société socialiste. Et surtout, il voulait mettre en œuvre une politique de, et je cite encore le mot, panafricanisme.
Oui.
Et là, ça a été important pour lui. Ça nous intéresse particulièrement concernant l'enjeu des langues, car ça implique la tentative de s'autonomiser par rapport à la langue française qui était imposée. Oui. Et donc, la revalorisation des langues traditionnelles comme langue nationale.
Oui.
Et en cela, la Guinée fut un pays précurseur dans toute l'Afrique.
Oui.
Même si on va le voir, par rapport à l'objectif indiqué, ça a été un relatif échec.
Oui.
Alors voilà, si vous me permettez, je reviens un petit peu sur ce qui a été mis en place par Sékou Touré. C'était d'abord une grande réforme scolaire. À partir de 1964, une commission nationale d'alphabétisation codifie le premier alphabet guinéen.
Oui. C'est dans quelle langue ?
Et justement, elle choisit 8 langues nationales à ce moment-là. Donc on est en 58, c'est quand même novateur. Elle choisit 8 langues. Le malinké, le soussou, le peul, le kissi, le bassari, le loma, le konya...
Le konyinake.
Merci. Et le kpele.
Et le kapel.
Voilà.
Foresi.
Et il a mis en place l'élaboration d'alphabets pour chacune de ces langues, ce qui n'existait pas avant.
Oui, il avait dit ça, et que tous les ethnies, il faut étudier dans ta langue.
Voilà, le
si
temps...
tu veux être ce que tu veux faire, il ne faut pas étudier langue étrangère.
Il faut se réapprendre.
Voilà, il faut se rêver dans ton propre langue, écrire.
Et donc là, pour qu'il y ait école, il a supposé la nécessité donc, d'avoir des manuels scolaires.
Oui.
Hors problème, on venait d'inventer les alphabets, ils ont été mis en place qu'en 65 et il faut des manuels scolaires. Donc tout ça demande du temps, une mise en place, une gestion colossale et c'est un sacré pari.
Oui.
Et il faut aussi former des maîtres.
Oui.
Qui savent utiliser ces manuels et qui peuvent transmettre dans leur langue chacune. Oui. Donc c'était un sacré pari. Il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et c'était un relatif succès dans le sens où de nombreux enfants ont été scolarisés.
Oui.
Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Mais on se retrouvait avec des classes de 200 élèves. Il y avait peu de manuels. Très vite, on a manqué de professeurs, ce qui faisait qu'on faisait appel à des professeurs finalement français et étrangers qui ne parlaient pas les langues. Donc, il y avait des problèmes fonctionnels. Je résume un petit peu, mais finalement, ça a été un relatif échec. Et puis, comme on l'a signalé dans la chronique historique, comme le général de Gaulle, au bout d'un moment, a coupé les subventions, on s'est retrouvé avec des moyens très, très, très réduits. Et voilà, jusque, je résume un petit peu, mais que finalement, Sékou Touré a essayé de reprendre la main en devenant très autoritaire, avec des dérives, et il a été renversé en 1984, on a dit, c'est ça, hein ?
Voilà. Oui, 84.
Voilà, donc je résume un petit peu, mais quand même, il me semblait important de revenir sur cette période, parce que ça explique quand même que très très tôt, avec cet élan du panafricanisme, il y a eu un intérêt pour les langues et quelque chose qui en faisait de la valeur identitaire très très fort et qui a été mis en place institutionnellement.
Oui.
Bon, après, dans la suite, on en est revenu. Le français a de nouveau été la langue majoritaire dans les écoles, un peu comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a toujours, depuis la Constitution de 2010, cet énoncé suivant au sein même de la Constitution. Oui. Certes, la langue officielle, c'est le français.
Oui.
Mais il y a aussi, et c'est au premier article, hein, L'alinéa 5, l'État assure la promotion des cultures et des langues de Guinée.
Oui.
Voilà, reconnu. J'ai essayé de faire rapide parce qu'on arrive à la fin de l'émission et on avait dit déjà beaucoup de choses avec toi. Aujourd'hui, ces langues-là que tu as apprises, bon, déjà, je veux bien que tu nous rappelles toutes les langues que tu as apprises et ensuite, lesquelles tu continues d'utiliser, toi, aujourd'hui, ici.
Aujourd'hui, ici, je garde que deux langues, malinké et français.
Malinké aussi.
Oui, et malinké.
Tu la parles en toi-même, pour toi-même ou avec d'autres ou...
Je le parle avec d'autres qui sont à Cré ici. Okay. Le malien, les ivoiriens qui parlent Gula, et même le burkinabé aussi qui parle Gula.
Okay.
Donc, ouais, je trouve des gens quand même pour parler ça.
Et du coup, vous parlez tous ces deux langues. Et moi, ce qui m'interroge toujours, c'est que parfois, quand je vous entends, vous passez du français au malinké, etc. Mais ce qui m'interroge, c'est dans quel moment.
Ça peut être, même si on est 4, 5 ou 6 personnes, ça doit être, on n'est pas de même ethnie. Et en même temps, je peux parler français et je peux parler malinké à quelqu'un d'autre. Et d'autres aussi, je peux le parler en soussou.
Et est-ce qu'il y a des choses que tu vas dire plutôt en malinké et d'autres plutôt en français, que tu pourrais pas dire en français?
Parfois, le mot même qui vient dans ma bouche, je peux dire comme ça avec des copains. Même entre nous, parfois, ici, on parle français malinké. Mais à la base, vraiment, entre nous, les Africains, on parle notre langue. Parce que notre langue malinké, c'est pas une langue comme ça. On avait des écritures. Ça écrit, fait des lettres, des géographies, de tout. L'écriture, ça ne ressemble pas du tout français ni arabe. C'est des anciennes.
Ça veut dire que si c'est une langue qui n'est pas figée dans une grammaire, elle peut évoluer très vite?
C'est déjà évolué. Il y a
oui,
l'écriture.
C'est ça. Enfin, elle change tout le temps.
Chaque année, on le voit, les gens qui se battent pour ça, même certaines. Dans leur téléphone, il est écrit en malinké. C'est pas français. Et il sait lire, il peut l'envoyer un message entre eux.
Et je peux poser une petite question sur le malinké. Je voulais savoir si le malinké parlé en Guinée et dans d'autres pays d'Afrique, c'est exactement la même langue?
Voilà, c'est souvent des accents qui font différence. Il y a un peu d'accent. Le début du mot ou à la fin du mot. Mais quand même, à la base, on a qu'une livre, une seule écriture pour eux. Comme le malien, le burkinabé, et même au Sénégal aussi, la Guinée-Bissau et la Guinée, tu vois. Entre les 6 pays qui entourent Guinée, on trouve partout, on a que des mêmes bouquins. Si on va apprendre une langue malinké, et tu vois Burkina, tu dois être, c'est la même écriture, le A ça ne change pas, le B ça ne change pas.
D'accord.
Mais il faut l'apprendre pour bien parler.
Ok. Et est-ce que tu peux nous faire entendre quelques-uns de ces mots en nous disant une phrase, un proverbe ou un conseil qu'on te donnait qui te reste en tête ou une citation d'un chanteur ou d'un personnage que tu aimes bien ou quelque chose que tu peux nous faire entendre pour nous faire goûter un peu ta langue.
Je peux dire, on m'avait dit « Fantanya kafisa gyonyadi ». Fantanya kafisa gyonyadi. Ça veut dire être liberté dans la pauvreté. C'est mieux qu'à la prison ou c'est mieux
que sans liberté.
Voilà, il faut être liberté dans la pauvreté. C'est mieux.
Merci.
Merci.
Moi, ça me renvoie à une autre question que je voulais te poser, proverbe là que tu as cité. Parce que nos auditeurs ne le voient pas, mais en fait, tu as toujours le sourire.
Il faut garder le sourire quand même, il ne faut pas le perdre.
Et j'ai l'impression que c'est ta philosophie de vie, en fait, et qui va très bien avec le proverbe. Dont...
Pour moi, oui, c'est mon philosophie de vie aussi. Ouais.
C'est-à-dire, ce mot liberté, pour toi, c'est la liberté de quoi ? C'est quoi ta liberté pour toi aujourd'hui ?
Pour moi, ma liberté aujourd'hui, je peux rentrer chez moi quand je veux. Je peux cuisiner ce que je veux manger. Donc, tout ce que je veux faire, ça, c'est liberté. Et en tant que je suis à la bonne santé, c'est quoi qui m'empêche d'être liberté.
L'émission se termine. Je voudrais bien que tu nous redises le proverbe en malinké, si ça ne t'ennuie pas, avant qu'on se dise au revoir.
Fantanya kafisa gyonyadi.
Et merci beaucoup, Kaba, pour ta présence.
Merci.
Merci, Kaba.
Merci.
Et on va terminer, comme promis, sur une autre partie de la musique de Bambeye Jazz National. Regarde sur le passé.
Bambeye Jazz National.
Tamakuru fola fila ni kola fola lo jabada fola ye majoto refe tanga konyoba pamundo konyoba konyoba zabaye pamure malefe joroni baluya matire ani chufa.
Les troupes d'invasion coloniale se heurtèrent à celles de l'Allemagne, à la frontière de ces États, près de Kita, dans l'actuelle République du Mali. Le 2 avril 1882, eut lieu la grande bataille de Woyoweyankong. Malgré l'intervention de l'artillerie coloniale, Kemeburema et ses hommes mirent les troupes coloniales en déroute. Cette victoire étendit le prestige de l'Almami tout le long des rives du Niger.